Radio 28 pour l'émission Parole d'Assos, consacrée cette fois à une association basée à Bruxelles et à Tournai, mais qui n'a pas vraiment de frontières, comme nous le découvrirons tout au long de cette émission. Nous donnons donc la parole au SVI, qui n'est autre que le Service Volontaire International. Par téléphone, rejoignons Pierre. Alors bonjour Pierre, vous travaillez donc pour le SVI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots que représentent ces trois lettres ?
Le SVI signifie Service Volontaire International. C'est une association de jeunesse basée à Bruxelles.
D'accord. Et comment et quand est-il né en fait exactement ?
Oui, alors c'est une genèse un peu particulière, puisque le début de l'association ne remonte non pas en Belgique, mais dans un pays du Sud, au Vietnam. Donc il y a de ça 7 ans et demi, on a été créé avec l'aide de la coopération belge et les Nations Unies au Vietnam. Donc c'est tout petit du Vietnam, donc c'est un projet qui... la première organisation de volontariat et la première maison de jeunes également à Hanoï. Et puis ce projet s'est développé de plus en plus, puisqu'actuellement on est à peu près 4000 membres locaux, environ 500 volontaires internationaux, et puis on a décidé de franchir le pas et de venir ici en Europe faire la promotion de nos activités au Vietnam, celle de nos partenaires, et puis aussi une approche du volontariat peut-être un peu particulière.
Et donc, votre partenaire principal, c'est SJ Vietnam, c'est bien ça ?
Non, c'est pas notre partenaire principal. Je dirais que c'est notre origine. C'est,
d'accord.
Légalement, on est une branche indépendante de SJ Vietnam. Donc, la plupart des gens qui sont dans le conseil d'administration du Service Volontaire International sont aussi membres de SJ Vietnam.
D'accord.
On a de plus en plus de jeunes qui maintenant s'intéressent à devenir membre du conseil d'administration.
Et à qui sont destinées vos actions ?
Je dirais un peu tout le monde. Donc, notre public cible, c'est principalement les jeunes entre 10 et 30 ans. Donc la moyenne d'âge de nos volontaires ont 23, 24 ans. Une majorité de jeunes filles, il y a plus de femmes qui font du volontariat que d'hommes, mais aussi des mineurs, parfois, donc des écoles qui, plutôt que faire un voyage au réseau, peuvent faire quelque chose d'utile. On a le scout aussi qui font appel à nous pour trouver des projets solidaires. Et puis on a parfois aussi des familles, même des retraités, une dame de 70 ans, elle va retourner pour la deuxième fois dans notre maison de jeunes au Vietnam. Donc on est ouvert à tout public.
D'accord.
Mais on est une association de jeunesse.
Et le but, c'est de proposer quoi exactement ?
D'abord, il y a la dimension solidarité, vie associative, donc ce sont des volontaires qui vont aller à l'étranger, se mettre au service d'une association locale non lucrative. On insiste bien sur le mot non lucratif. Il n'est pas question, par exemple, d'envoyer un volontaire faire les vendanges dans le sud de la France et piquer le boulot d'un ouvrier agricole.
D'accord.
Donc, on suppose que les personnes qui partent sont réellement motivées par la mission qu'ils vont faire. Ensuite, il y a une autre dimension qui est également l'aspect découverte interculturelle, découverte de soi, citoyenneté active. Donc, c'est pas seulement aller travailler à l'étranger, mais c'est aussi vivre dans un groupe qui est multiculturel. Donc, on peut se retrouver entre 2 et 15 volontaires qui viennent des quatre coins de la planète. On va travailler ensemble, vivre ensemble, avec tout l'enrichissement qui est derrière les difficultés. Donc, par exemple, ça peut être manger ensemble, qu'on mélange des hindous, des juifs, des musulmans, des végétariens. Ben, voilà, trois fois par jour, il faut discuter de ce qu'on va manger. Les relations sont parfois différentes en fonction de la culture. À quelle heure faut-il manger pour un Français ou un Espagnol ? C'est toujours la même chose. Donc, toute une série de choses qui ont l'air un peu ridicules vu de l'extérieur, mais c'est souvent ça la difficulté de la vie en communauté et de la vie en communauté multinationale.
Oui, c'est quand même quand on est confronté aux choses les plus basiques comme la nourriture, tout simplement, qu'on peut se rendre compte vraiment des différences culturelles et qu'on peut les mettre...
Et on se rend compte que des choses qui nous paraissaient tout à fait naturelles ne le sont pas. Bon, je donnerai un exemple, c'est la gestion d'un conflit. Vous avez un conflit avec un de vos collègues au Vietnam, par exemple, et bien la personne va demander à un de ses collègues de venir vous dire ce qu'elle pense de vous. En Europe, si vous faites ça, c'est extrêmement mal vu. C'est qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu viens pas me voir directement? Pourquoi tu propages des rumeurs? Oui. En fait, la personne veut bien faire, veut juste réussir le message. Et avoir un conflit, c'est peut-être vraiment ce qu'il y a de plus naturel dans les relations humaines. Et puis là, on voit que quelque chose qui paraît tout à fait normal, eh bien, on est quand même fortement influencé par la culture. Et souvent, quand on a des volontaires qui vont partir, ils s'attendent à avoir des difficultés politiques, la Banque mondiale ou religieuses, des choses comme ça, alors que c'est souvent des choses vraiment de la vie de tous les jours. On a une fois eu un groupe qui était parti au Vietnam, et après quelques mois, ils se sont, je n'ai pas disputé, mais il y avait des discussions sérieuses sur faut-il enlever ses chaussures quand on rentre dans la maison. Ça a l'air complètement stupide. Ben voilà, on check-in, on enlève ses chaussures quand on rentre chez quelqu'un, c'est plus propre, c'est plus poli, on agit, c'est un peu bizarre. Mais voilà, si on vit 6 mois ensemble et que chaque fois qu'on voit quelqu'un rentrer avec ses chaussures, on estime que c'est pas propre, ben, à un moment donné, il faut bien en discuter. Oui, donc c'est souvent ça qui est le plus dur, mais en même temps, c'est ce qui est le plus intéressant. Une fois qu'on est parvenu à dépasser ces différences et qu'on commence à rencontrer d'autres, à s'enrichir de leur culture, et puis surtout avoir un regard extérieur sur sa propre culture.
Et toutes ces différences culturelles, est-ce que vous mettez les jeunes qui veulent partir en service volontaire international, est-ce que vous les mettez au courant de ce à quoi ils vont être confrontés, ou est-ce que vous les laissez faire leur expérience ?
De les préparer au mieux, bien qu'il n'y a pas vraiment de recette magique. Si par exemple je vais présenter la culture belge, j'avoue que ça serait bien difficile, et puis chaque famille est différente, chaque association est différente. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de leur dire, bah, faites attention, vous allez rencontrer des difficultés, voici quelques outils qui pourront peut-être vous aider, faites attention à ça et ça. On leur donne également des documents pour les aider à se préparer. On leur donne pas mal aussi de vidéos qui ont été faites par des anciens volontaires, on les met en contact avec des anciens volontaires. Donc les informer le plus possible, le plus concrètement possible sur ce qui les attend à l'étranger. Maintenant, chaque volontaire est différent, chaque expérience est différente. Et puis sur place, ça sera un beau volontaire à vivre sa vie, quoi.
D'accord. Nous allons maintenant passer à une pause musicale avec un morceau de Habib Kouaté et Bamada qui s'appelle Sambara.
Sambara Pulama, tenga Sambara Sindala. Sambara Bulama, tenga Sambara Singala.
Newara moti, kasambara san, moti suguro, mandianye taye. Newara sigaso, kasambara san, sigaso suguro, mandianye taye. Newara segu, sikoro balanzando, kasambara nye. Mandiane taye nesele bamako faba suguba nyanye feye sambara bulama
sambara bulama tenga sambara singala
ka singala
sambara bulama tenga sambara singala
nyenga sambara do Kawasi ni madala ye, jamana na chaya Nyenkola segiso, dondo soma madam Nyentani nsire, cheni nalenkanye Ila choro ni singa nema Ayi, chema ibulu, itafima ibulu Ntabula mami nyenye, ate singa la Samara nintigima, cheto nitaye
Sambara ni deja
dona terima uche aba uche tinye na jome ni janye ba
sambali dija
na dona furuma uche aba uche tinye na jome ni furuno
sambali dija
na dona duba mikono duba ni bidense na jome ni danonka jome ni janye ba
Bamada avec le morceau Sambara, issu de l'album Baro, sorti en 2001. Nous retrouvons maintenant le SVI, qui est le Service Volontaire International, pour une interview. Et alors, pour reprendre de votre slogan, qui figure en fait vous, sur votre site internet, vous dites non au tourisme humanitaire ou non au volontourisme. Vous dites mener un combat contre ces deux choses qui semblent a priori assez positives. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le volontourisme ?
Oui, donc effectivement, pour le grand public, c'est très très positif. Donc pour expliquer un petit peu comment nous est venu ce combat, entre guillemets, c'est notre rencontre avec ces sociétés il y a de ça maintenant 3 ans. Donc au Vietnam, on a un jour vu débarquer le grossiste d'une agence de voyage bien connue ici en Belgique qui nous a dit voilà, on va vous aider à trouver des volontaires en Europe et en Amérique du Nord. Pour nous, c'était fantastique. 80% du budget de notre association au Vietnam vient des frais de participation. Donc on demande, à l'époque, on demandait 150 euros par mois pour le logement et la nourriture. Et donc ça nous passait très, très bien que des gens nous aident à trouver des volontaires, sauf que assez rapidement, quand on a commencé à voir arriver ces volontaires, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas affaire à des volontaires, mais à des jeunes touristes qui avaient payé très très cher pour venir chez nous. Parfois c'était jusqu'à plus de 2000 euros, plus l'obligation.
Oh, oui,
donc la bénéficiaire est quand même pas mal tout, mais là de ça, c'était aussi tout un discours commercial qui nous posait des problèmes. Donc c'était du style, voilà, tu as fini ta réto, tu parles français, eh bien, va enseigner ou l'anglais ou petit vietnamien. Sauf qu'être prof de français ou prof d'anglais dans un pays, que dans une culture différente où les relations prof et élèves sont très très différentes, ça demande de très sérieuses compétences pédagogiques. Et il ne suffit pas simplement de parler le français pour enseigner le français, par exemple.
Oui, tout à fait.
Donc des jeunes qui n'étaient absolument pas méchants, mais des jeunes pour qui on amplifiait certains stéréotypes. Donc, du style, les pays en voie de développement, ce sont des sous-développés. Quoi. Donc, si toi, tu viens avec ton diplôme d'école secondaire, tu vas certainement les épater, ou tu es en première candidat, truc machin, c'était fantastique. Et puis, quand ils arrivaient chez nous, on a 4000 membres, la plupart sont universitaires, certains parlent même mieux français que certains francophones, et la déception était grande. Le jeune qui partait avec l'idée qu'il allait sauver le Vietnam, c'est pas tout à fait ça. Alors, bon, si précise. C'est clair que quand on a payé 2000 euros et qu'on se retrouve dans un projet, un vrai projet de volontariat ou de confort, c'est un peu Silicon Scout, et qu'on a payé 2000 euros et qu'à 500 mètres de nos bureaux se trouve le Charlton, on se dit avec 2000 euros, j'aurais pu vivre dans des conditions de vie extrêmement différentes. Donc assez rapidement, on a stoppé ce partenariat. Puis on s'est rendu compte que ces sociétés développaient leur propre projet humanitaire, entre guillemets. Alors, juste entre parenthèses, l'humanitaire, c'est de l'aide d'urgence. Donc, c'est Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge, donc des ONG qui sont extrêmement spécialisées et qui font de l'aide d'urgence, quoi. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire ça, mais dans l'esprit du grand public, humanitaire est égal bénévolat à l'étranger. Ils sortent sur ça. Donc, ces sociétés se mettent à développer leurs propres projets humanitaires, entre guillemets. Donc, c'est par exemple, on va sous-loyer le directeur d'une école dans un petit village qui n'est pas bien difficile. Et puis, pendant 2 semaines, on fourne un quart de jeunes touristes un peu naïfs qui vont enseigner le français ou l'anglais. Pendant qu'ils s'amusent avec les enfants, généralement le vrai prof Bali regarde, puisqu'on a livré sa classe à des touristes, et puis 2 semaines après, on a un nouveau quart de touristes qui revient faire Hello à Surname. Ça détruit complètement la scolarité de ces enfants.
Oui, tout à fait.
Mais voilà, ça fonctionne. Ça fait rire. Alors, les jeunes qui partent via ces agences de voyage, au départ, ils sont super, super enthousiastes, un peu naïfs. Ils veulent vraiment aider les pauvres. Et puis, ils se rendent compte qu'ils font pire que mieux, que sur les 2000 euros qu'ils ont payés, parfois, ils arrivent zéro sur place. Et donc, des jeunes qui vont revenir complètement dégoûtés du secteur associatif, du développement, de l'humanitaire. Pour eux, ça sera fini une fois pour toutes. Ça va très loin, ce projet, ce volontourisme. Bon, vous avez en France une société qui est bien connue. Il suffit de taper volontaire un pays et puis vous allez tomber dessus. On vous propose carrément de faire du volontariat. Donc on vous dit, voilà, vous êtes étudiant en médecine, infirmier, étudiant paramédical ou même lycéen. Pourquoi ne pas aller tester votre projet professionnel dans les pays du tiers-monde ? Et c'est bien le mot « tester » qui est...
Ah oui, donc vraiment les prendre au bout des cobayes, quoi.
Voilà, des cobayes, on va aller tester. Et derrière ça, c'est pas simplement... on n'est pas très loin d'une forme de racisme. Un médecin africain, c'est pas un apprenti sorcier qui danse autour de son maître. C'est un vrai médecin, un vrai scientifique qui peut-être même a fait ses études par ici. Et un jeune lycéen n'a strictement rien à lui apprendre, quoi. Alors, non seulement c'est quand même assez... C'est manquer de respect, mais c'est aussi prendre des risques importants vis-à-vis de sa propre santé. Parce que faire un bête mancement, c'est risquer de se faire contaminer parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait. C'est aussi de blesser les personnes à qui on fait ce pansement, parce qu'un bête mancement, être infirme, ça demande des compétences techniques.
Oui, tout à fait.
Et c'est tout à fait, je peux comprendre un jeune qui a 10 ans, il rêve de faire médecin pour être prêt pour après travailler pour Médecins Sans Frontières. Il a envoyé son Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge, et puis à chaque fois on lui a répondu, reviens dans 10 ans, quand tu auras fini tes études, et tu auras un peu d'expérience. Là, son CV à ses agences de voyage, ils font tout pour se faire passer pour des organisations humanitaires, des organisations de bénévolat. On lui dit, oh, bien sûr, oh là là, mais tu as dû bien terminer dans la réto, et en plus, tu parles français, bien sûr, tu as plus qu'à signer ici, et puis voilà, tu es parti. Certains font même semblant qu'il y ait une sorte de sélection. Par exemple, certaines agences de voyage ici en Belgique font passer des tests psychologiques. Déjà là, on peut quand même se poser des questions sur passer un test psychologique dans une agence de voyage. C'est pas très bien où va passer ce test, à quoi il sert exactement. Mais les gens sont tellement prêts, tellement de ça, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils vont payer, par exemple, pour aller jouer au médecin en Cambodge, ils vont payer 2000 euros plus le billet d'avion. Donc ça leur fait un petit 3000 euros pour un mois. C'est plus que le salaire d'un médecin généraliste qui débute ici en ville, quoi. Mais donc là, on peut facilement voir un peu jusqu'où va le rêve, quoi. Le rêve est tellement fort qu'il n'y a même plus d'esprit critique. si vous allez sur le site de ces organisations, ces agences de voyage, il y a toujours une petite question, mais pourquoi faut-il payer pour être volontaire? Et puis on se rend compte qu'ils font 0% de bénéfices, alors que ce sont des sociétés commerciales, ils font 0% de bénéfices, quoi. Une société commerciale qui ne fait pas de bénéfices fait des pertes et n'a aucun avenir, quoi. Mais ça marche.
Oui, c'est un peu bizarre.
Mais ça marche, hein. Donc, par exemple, une de ces sociétés en France, c'est 10 000 volontaires par an.
Oui.
La plupart des organisations de volontariat non lucratif, si elles en envoient 800, elles sont contentes. Mais ces sociétés ont des capacités marketing qui sont absolument fantastiques. C'est impossible de ne pas les voir sur le web. Et leurs sites web sont vraiment bien foutus. Une de ces sociétés en France est parvenue même à avoir un reportage de France 2. Quoi. C'était le grand voyage de Lulu ou un truc comme ça, où une brave fille de 18 ans va faire un projet humanitaire qui consiste à aller ramasser des canettes de coca en plongée sur les plages de Phuket. Phuket qui est bien connue comme étant une ville particuliers ayant besoin vraiment d'aide humanitaire.
Oui, donc c'était un reportage qui vantait évidemment les mérites de ce service volontaire, enfin de ce voyage humanitaire, quoi.
C'est clair que si vous avez un peu d'argent, vous payez le voyage à une équipe de journalistes, un petit voyage à Phuket, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est tellement sympathique parce que ce terme volontourisme mélange volontariat et tourisme. Donc vous allez faire du volontariat, c'est super, et puis vous allez faire du tourisme. Et c'est clair, une personne qui fait le volontariat, elle espère aussi un peu visiter le pays, découvrir un petit peu l'endroit où elle va faire son volontariat. Donc a priori, ça a l'air vraiment super. Il y a une sorte de package. Sauf qu'on va se retrouver avec ce qu'il y a de pire dans le volontariat, donc du style repeint d'une école, et puis toutes les deux semaines l'école est repeinte. Et puis dans le tourisme, ça va être, on va voyager en train une troisième classe, parce que c'est bien connu, c'est toujours en troisième classe qu'on rencontre les frais locaux, accessoirement c'est aussi ce qu'il y a de moins cher. On va manger l'équivalent des sandwichs parce que c'est la vraie nourriture du local, et puis on va aller dans les hôtels les plus minables parce que c'est plus authentique, sauf qu'on aura payé le prix d'un voyage de luxe. Alors, ça serait une agence de voyage classique, je dirais bravo, vous savez, vous faites des super bénéfices et vous arnaquez bien les gens, sauf que si ils englobent le tout dans un paquet cadeau humanitaire, solidaire, alors que si la personne avait dépensé ses 3000 euros dans une agence de voyage de luxe, bah, quelque part, il y aurait bien plus d'argent qui serait resté dans le pays parce qu'ils auraient été dans des restaurants de qualité, ils auraient été dans des hôtels avec N étoiles, ils auraient pris un guide francophone et donc ça aurait fait fonctionner la machine, l'industrie touristique locale et ça aurait fait vivre des gens sur place là, sur les 2000 euros que vous allez dépenser, parfois strictement rien ne va arriver dans le pays. Donc on a eu par exemple écho d'une troupe de scouts au Cambodge où ces sociétés étaient voir en leur disant voilà, il y a des jeunes scouts européens qui veulent venir vous aider à votre camp. Et donc ces braves scouts avaient économisé pendant une année pour accueillir des homologues européens, alors que c'était pas du tout des scouts qu'on leur envoyait, c'était des touristes qui avaient payé pour aller en scout au Cambodge. Donc ce coût pour l'agence voyage, zéro. C'était le petit monde qui payait les vacances des jeunes.
C'est totalement aberrant, quoi.
Mais ça marche, hein. Ça marche même très bien. Il y a quelques années, ce qui manque, c'était l'écotourisme, les stages impétitifs. Maintenant, c'est le volontourisme. Et dans quelques temps, ça sera autre chose. Peut-être ces sociétés de volontourisme même vendront peut-être du petit pois si le marché du petit pois rapporte plus. Mais dans notre cas, disons, on ne va pas vendre des petits pois, c'est dans notre domaine du volontariat. Mais avec la réputation que nous avons créée, ces sociétés un peu pour les ONG, où maintenant quand une ONG veut recevoir des dons du public, la première du public, c'est est-ce que c'est vraiment sérieux ou est-ce l'arche Zoé qui revient? Parce que pendant des années, on fait n'importe quoi avec ces trois lettres.
Passons maintenant à une nouvelle pause musicale avec le morceau Xit, issu de l'album Yakar des frères Guisset. Thank you.
tengi katu he uti wenen he ti her hajal len madamay ate ndax fi jama figan he tengi katu he uti wenen he ti her hajal len madamay ate ndax fi ay baxu fi Nicola Assunta Assunta Dawla kulawon jigewon katanga Fuki atla am te xamul yayam Damul njangum ekol Fumu degundel day daw ndax limu gis guer Assumta Taxawal fi fi amul guer kentu la filal te ya fi bu sen ni katay andak sen njabot jamal ni ñaan ñun ni ko gëna yitéwo mala mala kak yek ci ne rabbi geek ñun ni ko gëna bëgg mala mala kak yek rabbi ci geek ñun ni ko gëna yitéwo mala mala kak yek sëtu ci geek yalla yalla nañ ñu may jam Si jamono ju jaxaso ji Ñun ñi ko gëna yitéwo mala mala kak yek jinné rabbi geek Ñun ñi ko gëna soxla mala mala kak yek jinné sa degi ci geek Ñun ñi nga gëna bëgg ndax nitu dëkk ki nga def sunu rasulullah Te ñun ngay gëna rëbb kéro yowmal ñuy jitt ba suñu ñaq di ñu mëtt Yalla Yalla ne ñu may jamm Yalla si jamono ju jaxaso ci Si jamono ju jaxaso ci Jamono joy jaxaso ji Si jamono joy jaxaso ji Si jamono joy jaxaso ji
C'était donc Xit des frères Guisset. Nous retrouvons maintenant Pierre du Service Volontaire International pour poursuivre cette interview. Et comment lutter maintenant contre ce volontourisme qui est alors vraiment presque malsain ? Comment faire pour lutter ?
Je dirais, la première chose, c'est d'informer les jeunes et leurs parents sur ce phénomène. Donc leur dire, si vous êtes volontariat, passez par le secteur éducatif, le secteur commercial n'a strictement rien dans le domaine de la solidarité. Et la santé n'est pas une nouvelle attraction touristique. Donc je pense que déjà, rien qu'en faisant cette discussion entre secteur commercial et secteur associatif, ça permet de payer déjà pas mal... Et puis d'être un petit peu critique sur le projet. Un projet, allons donner des bains aux éléphants en Thaïlande. Se poser des questions, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'envoyer un jeune européen des bains en Thaïlande? Est-ce qu'au final, ce ne sera pas pire que mieux? Est-ce qu'au final, on ne va pas prendre le boulot d'un gars qui, dont c'était le métier?
Oui.
Mais informer les jeunes parents, et souvent aussi pour les parents, le fait que les sociétés commerciales sont extrêmement chères, ils ont des superbes bureaux dans des maisons de 2 mètres en plein centre de Bruxelles, ça les rassure. Elles se disent, ben voilà, je peux envoyer pour la première fois mon fils ou ma fille à l'étranger, là c'est très sérieux, je suis sorti de voyage avec un petit sac, un bic, une tasse de café, donc ça doit être forcément bien. Et que l'autre, de l'autre côté, il demande qu'une centaine d'euros d'inscription. Donc, est-ce que c'est bon sérieux? Est-ce que si là, ça coûte 2000 euros, ça doit être forcément mieux qu'un truc qui en coûte qu'une centaine?
Oui, c'est ça, d'accord. Et qu'est-ce que vous proposez alors, vous, exactement? Quel est le service que vous proposez? Quelle est l'alternative à ce volontourisme?
Donc, on propose, ce sont des projets qui seront toujours mis en place par des associations locales, uniquement des associations. Donc, à l'exception du NAM et de la Belgique, ce sont toujours des projets qui sont mis en place par des associations locales, par des jeunes locaux. Donc, ce sont qui ont imaginé le projet, qui vont suivre le projet. Et donc, on donne la possibilité à des jeunes belges de venir rejoindre ces jeunes locaux sur leur projet. Alors, ça peut être des projets extrêmement variés. Ça peut être donner un coup de main à une maison de jeunes Russie pour organiser un concert à droit. Ça peut être la protection des ours en Russie, la protection des tortues sur les plages aussi. Ça peut être travailler des enfants des rues au Sénégal. Ça peut être un projet avec des familles qui vivent sur le fleuve Rouge au Vietnam, peut-être un festival de films à Taïwan, donc c'est vraiment très varié. Et le point commun entre tous ces projets, ce sont des projets non lucratifs, des projets qui sont mis en place par des associations locales.
Et ça permet donc aux jeunes, comme vous le dites sur votre site internet, d'apprendre par l'action, c'est donc ça?
Oui, tout à fait. Donc nos projets ne sont pas des projets intellectuels ou c'est des projets qui sont accessibles à tous. Donc on ne demande pas de format particulier, même à la gueule, à quelqu'un qui viendrait nous voir en disant qu'il ne sait pas lire, il nous intéresse encore plus qu'une personne qui viendrait avec 12 docteurs. Donc l'apprentissage se fait par le projet. Donc, donc par exemple, quelqu'un qui irait en Allemagne faire un projet de construction de château métier fond, il ne connaît peut-être strictement rien à maçonnerie, mais il y aura des gens qui seront là pour lui expliquer comment faire. Il va finir de devenir maçon en 2 semaines, mais il sera capable de faire ce qu'on lui demande de faire. Ça ne fonctionne que si on est intéressé par le projet. Puis ici, une expérience de vie, donc tout à l'heure, de cet apprentissage interculturel, donc cette vie en groupe, bien sûr, c'est une façon aussi d'apprendre quelque chose différent que ce qu'on apprend à l'école.
Alors Pierre, vous nous parliez donc du fait d'apprendre par l'action et j'ai pu voir sur votre site internet que vous parliez de chantier international. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un chantier international?
Donc le terme chantier international, c'est le terme qu'on utilise dans notre domaine. Donc ce sont des activités de volontariat qui vont de 2 semaines à plusieurs mois. Donc ce sont des activités en groupe en général, donc un jeune ou un moins jeune qui va partir travailler bénévolement pour une association locale dans des domaines extrêmement variés.
Et maintenant, imaginons...
Les sociaux, environnementaux, culturels, vraiment de tout. Pour donner un petit chiffre, pour l'instant, on a à peu près 500 projets où on cherche des volontaires dans près 70 pays. Et en été, ça peut monter jusqu'à 2500 projets. Donc il y a énormément de choix.
Et imaginons, donc c'est ouvert à tous, en fait. Quelles sont les conditions, en fait, pour qu'un jeune puisse justement partir dans un de ces chantiers internationaux?
Donc, au niveau des conditions,
formation, on ne demande aucun diplôme particulier, on demande juste d'être vraiment intéressé par le projet. Donc ne pas confondre tourisme alternatif et volontariat, ne pas se dire je vais aller faire du volontariat en Thaïlande, c'est joli, les plages sont chouettes. Et puis finalement, quand on arrive sur place, on se rend compte qu'on est à 300 km de la plage, dans un orphelinat, et après deux jours, on en a ras-le-bol des enfants. Donc vraiment être réellement intéressé par le projet, il y a suffisamment de choix pour trouver vraiment le projet dans lequel on est intéressé. Donc ne pas se focaliser sur la destination, mais plutôt sur le projet, et parfois aussi ne pas avoir peur d'aller moins loin. Donc peut-être que ça va moins pas épater les copains si on a été que, entre guillemets, en Allemagne, mais c'est parfois vraiment l'occasion de sortir des sentiers battus. Par exemple, on a des projets aussi en Pologne, en Géorgie, en Arménie, en Ouzbékistan, par exemple, qui ne sont pas les pays auxquels on pense en premier pour faire du tourisme, mais où il y a vraiment des choses intéressantes à faire et à voir. Donc, la première condition, c'est donc vraiment être intéressé par le projet. Après, avoir des connaissances de base d'anglais, c'est fort utile, à l'exception de quelques pays comme le Sénégal, le Bénin, là c'est le français, mais je dirais que presque pour tous les autres pays, la langue de travail sera l'anglais. Donc c'est pas du tout un critère d'exclusion. On a par exemple eu un jeune SDF qui est parti en Allemagne, il connaissait pas un mot d'allemand, pas un mot d'anglais, et ça s'est très, très bien passé, il était exceptionnellement motivé. Donc on conseille aux volontaires quand même d'un peu réviser leur anglais, ça va les aider à s'intégrer sur place. Alors il y a aussi une condition financière qui est là, malheureusement. Bien qu'on essaye vraiment de tout faire pour que le volontariat soit accessible à tous, il y a quand même malgré tout des frais. Donc le premier coût, c'est le transport. Donc c'est clair, si on part en Allemagne ou au Japon, bien au Mexique, les moyens de transport sont différents, et ça on ne sait rien y faire, on n'a pas nos propres avions évidemment. Alors ensuite, il y a les frais d'inscription pour nous, c'est nos revenus. Donc ça, c'est soit 170, soit 250. Donc 170, c'est un ou deux projets de un mois maximum n'importe où dans le monde, et 250 euros pour une année complète avec un nombre multiple de projets et de pays. Donc par exemple, un jeune qui partirait un an en jeune, ça va lui coûter son billet d'avion et 250 euros. Et sur place, il est logé, nourri par l'association d'accueil. Ça reste relativement accessible. Mais ça, c'est uniquement les développés, les pays riches, parce qu'eux peuvent facilement trouver des sponsors. Dans les pays pauvres, c'est généralement pas possible, donc les associations locales vont demander des frais de participation qui vont entre 50 et 300 euros par mois. Donc ça, c'est de l'argent que le volontaire va donner directement au partenaire local, qui va s'en servir pour le logement, pour la nourriture, et puis surtout pour le soutien au projet. Par exemple, au Sénégal, notre partenaire, c'est une toute petite école qui s'occupe dans le fond des rues. C'est les frais de participation que donnent les volontaires, ça représente 80% du budget de l'école. Donc à la fois, les volontaires viennent donner un coup de main, mais aussi un apport financier qui est non négligeable. Et l'argent, l'utilisation de l'argent, c'est très clair. Donc les frais d'inscription, c'est pour nous, pour notre fonctionnement ici en Belgique, et les frais de participation, c'est à 100% pour le partenaire local. Et le volontaire étant sur place, il va voir tout de suite à quoi sert cet argent. Alors, parce qu'on essaye aussi de rendre le volontariat accessible à des jeunes en situation de crise. Donc, pour des jeunes qui n'ont aucun moyen financier, on essaye aussi de trouver des solutions pour que le volontariat leur soit aussi accessible. Donc, par exemple, cet été, on a envoyé 4 jeunes qui avaient eu des problèmes avec la justice, avec 4 jeunes français dans une situation similaire. Et ils sont partis 2 semaines au Vietnam, dans notre branche à Hanoï. Et là, absolument tout était pris en charge par la Commission européenne. Donc là, on a fait tout un travail de recherche de fonds pour qu'on puisse également offrir le volontariat à des personnes qui n'avaient jamais pensé pouvoir partir à l'étranger, être bénévole. Et pour nous, c'est vraiment important de rendre le volontariat aussi accessible à ce public, parce que c'est souvent eux qui vont retirer le plus, et souvent, peut-être paradoxalement, c'est souvent eux les meilleurs volontaires.
C'est eux qui sont les plus motivés souvent pour pouvoir donner
ceux qui partent peut-être avec moins d'attentes. On a parfois des volontaires qui partent avec tellement d'attentes, peut-être tellement de préjugés, que quand ils arrivent sur place, même la déception est trop grande.
Écoutons maintenant la Negra Tomasa de Compay Segundo.
Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda, re linda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
C'était donc Compay Segundo qui est en fait issu du Buena Vista Social Club avec son morceau La Negra Tomasa, issu de l'album Gracias Compay de 2003. Retrouvons maintenant Pierre du Service Volontaire International. Maintenant, je vais me poser une petite question d'un ordre pratique. Imaginons qu'un jeune aimerait partir pendant l'année scolaire. Est-ce que c'est possible? Et si oui, aura-t-il une formation scolaire là-bas sur place?
Donc, ce sont des projets de volontariat. Donc, c'est pas des échanges scolaires. Ça, on ne fait pas. Il y a certains partenaires qui nous donnent la possibilité de suivre des cours de langue, par exemple, mais ça ne va pas remplacer une année scolaire. Donc, notre public, c'est plutôt souvent des gens qui ont terminé un cycle d'études ou bien qui ont raté leur année et qui, plutôt que de demander jusqu'à septembre prochain, ont envie de se mettre à profit leur temps. Des gens qui ont terminé leurs études et qui ont peut-être envie de commencer tout de suite à travailler, ou bien des gens qui sont au chômage, des gens qui ont envie de changer de vie. Mais donc ça ne remplace pas une année scolaire. Donc c'est...
D'accord. Et quel est le délai en fait d'attente moyen? Est-ce que, imaginons qu'un jeune maintenant va s'inscrire et qu'il aimerait partir dans 3 mois par exemple, est-ce que c'est possible?
Oui, bien sûr. Donc, d'un point de vue purement technique, administratif, nous, de notre côté, ça va très, très rapidement, puisque pas mal de partenaires, on est en contact avec eux par email ou par téléphone. On dirait presque, en théorie, vous pourriez partir demain au Sénégal, puisqu'on sait qu'on a besoin de volontaires pour l'instant sur le projet au Sénégal. Maintenant, si c'est possible techniquement, c'est peut-être pas une très, très bonne idée, dans le sens où il y a tout un processus de préparation qui est important de bien faire. De bien s'informer sur le pays. Nous, on va donner des documents, on va organiser des interviews téléphoniques, donner des contacts. Donc, il y a tout un processus de maturation à faire pour être sûr d'arriver, ne pas arriver comme un extraterrestre qui découvre un pays qu'il n'avait absolument pas imaginé. Donc, ne pas partir au Vietnam en s'attendant à voir le paysage qu'on voit dans les films de guerre. Ça n'a strictement rien à voir. Ne pas partir au Mexique en s'attendant à voir des gens avec un grand chapeau qui dort au pied des bus. Donc, bien se préparer. Puis aussi, pour certains pays, il faut parfois des vaccins. Pour d'autres, il faut des visas. Il faut un passeport, bien souvent, en règle. Donc, ça prend un peu de temps. Et puis, si vous voulez partir demain au Sénégal, oui, c'est possible, mais vous risquez de payer extrêmement cher le billet d'avion. Donc, plus on s'y prend tôt à l'avance, plus on a le temps pour se préparer, plus on attend aussi pour trouver un billet d'avion à un prix raisonnable.
Okay.
Donc, je dirais qu'un minimum de 1 mois, c'est bien, quoi.
Ok, d'accord.
Alors, au niveau de la préparation, il y a peut-être un peu une exception pour des groupes. Donc, on envoie également aussi pas mal de scouts, des classes de recto également. Et là, ça, le dé est plus grand, puisque la préparation est plus grande. Donc là, on leur demande de s'y préparer une année à l'avance. Comme ça, on a bien le temps de bien préparer tous les membres du groupe, de créer des liens entre le groupe de jeunes qui va les recevoir et la classe et le mouvement de jeunesse ici en Belgique.
Et est-ce que les destinations et les projets sont à la carte en quelque sorte, ou est-ce que le jeune peut de lui-même proposer un projet de volontariat? Ou est-ce qu'il doit choisir parmi les
autres? Les projets sont des... Donc, ce n'est pas un jeune belge qui va venir inventer un projet pour le Sénégal dans un pays qu'il ne connaît pas. Donc, il va aller rejoindre une association locale qui, elle, a des projets.
D'accord.
Alors, on a deux types de volontaires. On a les volontaires de chantier international, donc 2 semaines. Donc, c'est plutôt une expérience de groupe. Il y a un programme bien défini. Donc, par exemple, un festival d'Europe, on aide au montage et au démontage du festival. Donc là, c'est, je dirais, assez cadré. Puis on a des projets qui sont des projets de plusieurs mois, où là, le volontaire va s'intégrer complètement dans une association locale. Et là, ce qu'on attend du volontaire, c'est pas simplement de suivre des instructions, mais vraiment de se comporter comme étant un membre à part entière de l'association. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand le volontaire commence à venir avec sa culture, son passé associatif, et vient proposer des idées nouvelles. Donc là, il commence à avoir la possibilité de créer des projets petit à petit. Alors, par exemple, on a eu une photographe qui est venue s'occuper des enfants des rues sur notre projet au Vietnam. Et au bout d'un certain temps, elle a eu l'idée d'apprendre aux enfants à faire des photos avec un appareil photo jetable. Et ça s'est terminé par une exposition dans les locaux de l'Alliance française à Hanoï, qui est un lieu assez prestigieux. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. On avait quelqu'un qui avait une formation un peu exotique, qui est venu avec une idée nouvelle. Cette idée a germé. Il y a d'autres volontaires internationaux et des volontaires locaux qui l'ont apprécié. Puis ça a donné un résultat tout à fait intéressant.
Ah oui.
Mais ça ne se fait pas tout de suite. On n'arrive pas dans un pays qu'on ne connaît pas. Et puis bonjour, voilà, j'ai un super projet, allez-y, dites-moi, je dois le faire. Quoi. Donc oui. Il faut quand même prendre le temps de comprendre où on est, comprendre l'association dans laquelle on est, et puis aussi trouver, se construire une équipe de volontaires locaux.
Donc savoir un petit peu où on met les pieds et puis après voir de quelle manière on peut se rendre utile, quoi.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est parfois bien pour bien comprendre, d'essayer de s'imaginer la situation dans l'autre sens. Un volontaire japonais qui viendrait dans une maison de jeunes en Belgique, hein, il ne va pas commencer, dès son arrivée à l'aéroport, à développer un projet. D'abord qu'il comprenne un petit peu là où il est, avec qui il est, et puis petit à petit, il peut peut-être venir avec des idées nouvelles.
D'accord. Ça a l'air en tout cas assez réjouissant.
Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, par exemple, on a, dans notre cas, dans la maison de jeunes à Hanoï, on a régulièrement des volontaires japonais qui viennent. Et par exemple, ils font des ateliers origami avec les enfants des rues. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec des volontaires locaux. Et donc là, la culture avec laquelle ils viennent, bien, ça nous enrichit. De la même manière, on a parfois des volontaires belges qui font des repas belges. Voilà. Ça, au Vietnam, la nourriture belge est tout à fait exotique. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec nos volontaires locaux. Donc on a nos partenaires à l'étranger, quelque part, n'ont pas vraiment besoin d'être sauvés par des jeunes belges. Par contre, ce qui les intéresse, c'est vraiment la motivation que peuvent apporter ces volontaires, le regard extérieur, parfois le regard critique aussi qu'ils peuvent avoir sur des projets. Et ça permet d'évoluer.
D'accord. Et donc, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dernières conditions très importantes au niveau de l'âge? Quelle est la limite?
Donc, la limite standard pour un individuel, c'est un minimum de 8 ans. Ça peut être un peu moins si c'est dans un cadre de groupe, donc scout, maison de jeunes ou école. Et puis, il n'y a pas vraiment de limite supérieure. Simplement, il faut savoir que la moyenne d'âge sur un projet est de 23-24 ans. Donc, si une personne de 7 ans veut se joindre au projet, il n'y a aucun problème, mais il n'y aura pas de logement spécial, il n'y aura pas d'activité spéciale. Tout le monde est mis à la même enseigne.
Ok. Parfait. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter?
Peut-être notre site web. Donc on a essayé vraiment d'avoir un site web qui est un petit peu de l'ordinaire et qui soit le plus communicant possible. Donc l'adresse, c'est www.service-volontaire.org. Donc www.service-volontaire.org, et on est disponible, y compris le week-end.
Ok. D'accord.
Toute dernière chose.
Oui.
Ce qui est important aussi de savoir au niveau de notre association, c'est qu'on est une association de jeunes gérée par et pour des jeunes. Donc, ce sont des anciens volontaires qui gèrent l'association.
Ok. D'accord. C'est un petit peu le même principe qu'un mouvement de jeunesse qui est géré par d'anciens scouts ou d'anciens louveteaux, par exemple.
C'est un peu ça, et on espère bien être reconnu comme organisation de jeunesse un jour. On y travaille en tout cas.
Eh ben, espérons-le, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et encore plein d'autres bonnes choses. Et merci beaucoup.
Merci.
C'était donc, dans le cadre de Paroles d'Assos, une interview du Service volontaire international. Au micro, Gary. Je vous rappelle que vous pouvez gagner une année entière d'inscription au Service volontaire international, c'est-à-dire l'équivalent de 250 €. Pour cela, tout simplement, envoyez-moi un mail à gary@radio28.be avec vos coordonnées complètes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain Parole d'Assos.